Aujourd'hui, à Rencontre, un prêtre motard, Guy Gilbert. Au premier contact, ce prêtre peut choquer. Guy Gilbert a les cheveux longs et ne se gêne pas pour s'identifier à ceux qu'en France, on appelle les loubards et qu'on nomme ici les gars de bicycle. Ceux avec qui il partage sa vie voient en Guy Gilbert un gars de bicycle, un loubard, un vrai.
Père Gilbert, on dit de vous que vous êtes un éducateur de rue. Qu'est-ce que ça veut dire être éducateur de rue, concrètement?
Éducateur de rue, effectivement, je suis professionnel. Je suis dans une association de prévention à Paris et nous sommes 12 éducateurs de rue. Notre travail d'éducateur de rue consiste à faire la rue.
À faire la rue.
Faire la rue.
Ça veut dire quoi?
Faire la rue, c'est littéralement, si tu veux, draguer des jeunes qui traînent dans Paris.
Ça, entre 9h du matin et 5h du soir.
Non, ce sont des jeunes qu'on rencontre beaucoup plus la nuit que le jour. Si tu veux, le phénomène est le suivant. Des jeunes sont abandonnés par les parents. Pas un abandon complet physique, si tu veux, mais un abandon moral ou affectif très grand. Mettons, le beau-père peut pas supporter l'enfant, la mère non plus. Le taudis, ou les quelques mètres carrés là où vivent la famille sont trop petits. Tout ça provoque la descente de l'enfant à partir de l'âge de 12 ans dans la rue doucement. Il descend dans la rue.
Il cesse d'aller à l'école.
Enfin, il y va très irrégulièrement. Il fait beaucoup de conneries à droite et à gauche. Il traîne.
Des conneries, c'est-à-dire quoi, là?
Des conneries.
Dans les exemples.
Par exemple, il vole. La délinquance, souvent à Paris, commence dans le métro. L'enfant descend dans la rue. Il rencontre d'autres jeunes qui descendent en même temps dans la rue. Ils s'agglutinent ensemble.
Ils forment des bandes.
Ils forment une bande. La bande, très rapidement, a un projet. Ils n'ont pas d'argent, etc. Ils descendent dans le métro et ils vont piquer des portefeuilles dans le métro. C'est comme ça que ça commence. Voilà.
Ce sont des jeunes qui habitent dans ce quartier.
Ils habitent dans le quartier, oui. Nous occupons de 150 jeunes qui habitent dans un périmètre de 2 km² ici. Et qui sont les plus durs et les plus abandonnés, si tu veux. Alors, beaucoup d'emmerdements avec la justice, avec la police, énormément. Ils traînent partout, ils se couchent souvent tard, notamment les jeunes adolescents, vers 3h du matin. On les suit jusqu'à 3h du matin. Donc il a fallu un long travail pendant des années et des années d'aller dans les bistrots les plus mal famés, les plus difficiles. Je me souviens d'une personne chrétienne de mon secteur qui me disait, enfin, qu'est-ce que vous faites dans les bistrots les plus mal famés? Alors je lui dis, écoute grand-mère, tu sais, les jeunes qu'on rencontre, c'est pas dans les églises qu'on les rencontre. Mais on les rencontre, dans les églises, quand ils sont en train de casser les troncs des églises pour ramasser l'argent dans les églises. Et je me souviens, l'un d'entre eux me disait il n'y a pas longtemps, l'église est mal barrée parce qu'il n'y a plus de sous dans les troncs. Je disais que c'était très bon pour l'église, entre parenthèses. Bon, enfin, on ne les rencontre pas dans l'église, mais on les rencontre là où ils sont. Et moi, prêtre, je dois vivre, et éducateur, à l'intérieur même de leur vie, dans les endroits les plus mal famés, parce que je crois que c'est là qu'actuellement Jésus-Christ vivrait avec eux s'il vivait maintenant en notre temps.
Depuis combien de temps vous faites ce travail?
Depuis 13 ans.
Comment ça s'est produit? Comment êtes-vous venu à ça?
Si tu veux, d'abord, en tant que prêtre, si tu veux, je suis très fier d'être prêtre et pas du tout fier d'être curé. Je fais une nuance importante entre les deux. Fier d'être prêtre, en ce sens, c'est que le prêtre est d'abord le vagabond de l'amour et de l'espérance, le vagabond de la justice, qui doit vivre avec les plus défavorisés. Ça, j'en suis très fier. Curé, j'en suis pas fier du tout, c'est l'étiquette sociale ronflante. Quand j'étais nommé jeune vicaire, tout de suite, je me suis ramassé tous les fils de l'argent, les fils de la culture, les fils des riches. Parce que j'étais une étiquette sociale, moi, ronflante. Bon. Et je n'ai rien contre les riches, ce sont mes frères. Ce que j'ai à dire, c'est que je vomis leur richesse, leurs biens, qui finalement les aveuglent. Mais ce sont mes frères, les riches. J'avais donc les fils des riches. Et je me disais, qu'est-ce que je fais là-dedans? Jésus-Christ m'a appelé à aller vers les malades, et moi je suis vers les bien portants. Et puis après j'ai rencontré Alain un soir. Je rentrais un soir sur ma moto, et j'ai vu un môme de 12 ans assis sur le bord d'un trottoir. Il était 1h du matin. Je lui ai demandé ce qu'il foutait là, il était assis sur le bord du trottoir, et il m'a dit, je ne veux pas rentrer à la maison. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, parce que je mange après le chien dans l'assiette au chien. Alors j'ai gardé Alain une nuit d'abord. parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et je l'ai gardé 7 ans.
Et ça peut vous causer des ennuis quand même de garder chez vous un enfant.
Non, parce que le père n'en voulait plus, la belle-mère non plus. Puisque pour donner à manger à l'enfant, après le chien est dans l'assiette, il ne faut vraiment pas vouloir d'amour. Le père avait des histoires avec lui, beaucoup. Donc le père me l'a confié. Et ensuite, après, c'est le juge qui me l'a confié. Évidemment, au départ, on n'a pas le droit de garder un enfant comme ça, c'est exact. Mais le juge me l'a confié après, et si tu veux, à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu de problème.
Vous avez gardé 7 ans.
7 ans.
Comment ça s'est passé?
7 ans, il y a eu une première année très difficile. C'est lui qui m'a appris le métier, au fond. Et il m'a appris deux choses. Pourquoi j'avais été appelé à être prêtre, et pourquoi, comment je suis devenu éducateur spécialisé. L'appel évangélique est vachement fort, tu sais, dans l'évangile est prodigieusement fort. Jésus-Christ naît comme un paumé et mort entre deux criminels. Je cherchais désespérément ça, toi. Et Alain me l'a fait découvrir. Sa pauvreté, sa misère morale, affective. Sa sœur est morte tuée sous les coups par la belle-mère. Elle devait se mettre tout nue sur le parquet froid et battue à coups de lanière. Elle est morte suite de ça. Hein. Vivre avec eux, si tu veux, vivre avec Alain, ça a été une découverte prodigieuse. Parce que très vite, il m'a dit, d'accord, tu me sors de la merde, mais il faut aider les copains. Donc c'est lui qui m'a fait connaître le phénomène de la bande. Il ne voulait pas que je le sauve tout seul. Et c'est lui qui m'a donné, si tu veux, une dimension très importante au point de vue évangélique. Souvent, nous chrétiens, on nous demande, on nous sollicite. Donne-moi de l'argent, moi je m'occupe des paumés, et toi, reste dans ton petit confort habituel. C'est ça que ça veut dire. Je refuse le fric systématiquement qui m'est donné dans les conférences ou dans les églises. Parce que j'estime que ce fric n'est pas bon. Au bout du billet, la réflexion s'arrête. Je dis que d'abord, nous devons appeler tous les chrétiens et les autres à une réflexion et à un combat pour la justice, mais universel. Et c'est la notion qu'Alain m'a donnée. D'accord, tu m'as sorti de la merde, mais aide les copains avec moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert la bande.
Alors, vous avez passé de l'aide apportée à une personne à l'aide apportée à plusieurs personnes.
À plusieurs personnes.
Mais ça change quand même drôlement les rapports à ce moment-là.
Ça change les rapports. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne sort pas quelqu'un de difficulté tout seul. C'est important. Il appartient à une communauté. Et Alain appartenait à une communauté de rejetés, de bafoués et d'écrasés. Et il fallait qu'Alain puisse être sauvé avec les autres. Ils ont une solidarité que nous, chrétiens, nous n'avons pas.
Ah bien, Alain vous acceptait, mais est-ce que la bande vous a accepté?
Ah, très très vite, oui, parce qu'ils ont bien vu le changement qu'Alain avait. Alain a changé formidablement. Et en fonction de ça, c'était...
Et ils acceptaient ce changement?
Ah oui, bah, ils ont vu qu'Alain n'avait plus toutes ces difficultés énormes qu'il avait. Il a vu qu'Alain avait un toit pour vivre. Si tu veux, Marcel, la chose la plus belle qui était, c'est qu'il m'a appris la patience. Pendant un an, il m'a rien dit d'autre que j'ai faim, j'ai soif et j'ai envie d'aller au cinéma. Et moi, je me disais, ça colle pas, ça. Je dois pas avoir sa confiance, toi. Je me posais cette question-là. Et puis un jour, je vais téléphoner, j'ai dit, prépare la purée, j'arrive. Prépare la purée. Je retéléphone, je dis, reprépare la purée, j'arrive. Enfin, trois fois. J'arrive, il dormait dans la purée quand je suis arrivé. Je l'ai réveillé. Et puis, il avait bu quelques bières. Il avait bu quelques bières ce soir-là, je ne sais pas pourquoi. Au bout d'un an. Et où je me posais la question, qu'est-ce que je lui apporte? Il ne me dit rien. Et d'un seul coup, il m'a dit, tu sais, j'ai bu ce soir, j'ai envie de te parler. Il m'a dit, tu sais, j'étais très malade avant de te connaître. Et dans mon délire, je voyais quelqu'un qui s'avançait dans un nuage que je distinguais pas bien et qui me tendait la main. Je ne savais pas qui c'était, je sais que c'est toi maintenant. Si tu me lâchais, ça ne serait plus jamais comme avant. Et je n'aurais plus jamais confiance en quelqu'un. Il m'a fait découvrir, si tu veux, que si on aime, il faut être très patient. Surtout ce peuple-là de la nuit, ce peuple d'écrasés, d'oubliés. Ils ont un immense besoin de silence et d'écoute profonde. Je crois que c'est très important. L'amour de ces êtres-là nous appelle à une immense patience. Immense, prodigieuse.
Mais le but de votre travail, c'est de les amener à s'intégrer à une société que vous rejetez.
Le but de mon travail n'est pas de les intégrer dans une société. Je dirais cette société, cette putain de société. Cette société où on court après l'argent avant tout. Tu te rends compte? Moi, les intégrer là-dedans. Nous sommes souvent des prostituées face à l'argent dans cette société. La plupart du temps, est-ce que nous ne courons pas d'abord avant les biens matériels, avant de nous occuper des mômes qu'on a faits? C'est une interrogation qu'on peut poser à chacun d'entre nous. À tous ceux qui écoutent maintenant, c'est très important. Et les intégrer en société, pas question. Sauf s'ils le désirent. Alors c'est très important, c'est le désir. Hein. Mais ils vivront jamais comme nous, tu sais.
Alors c'est une cellule de marginaux que vous maintenez dans la marginalité.
Je ne les maintiens pas dans la marginalité, je respecte leur marginalité, mon vieux. Tous les êtres ne sont pas forcés de vivre comme nous. Tous les êtres ne sont pas forcés de s'asseoir le soir à la télévision et de regarder bêtement la télévision en couleur ou pas en couleur. Tous les êtres ne sont pas forcés de prendre le métro à la même heure et de pisser au même endroit etc. à la même heure, tu vois. Je crois qu'il y a des gens, et notamment les jeunes de notre temps, ont un immense besoin de fantaisie dans ce monde aseptisé. Et votre civilisation canadienne, vous le savez très bien, elle n'est-elle pas aseptisée? Et la nôtre aussi d'ailleurs, hein. On n'a pas de leçon à vous donner dans ce sens-là. Hein. Bon, ce confort qui nous arrive, ça nous endort, ça nous chloroforme. Les jeunes n'en veulent pas. Ils réagissent par tous les moyens. La drogue, c'est une réaction malheureusement dangereuse qui se retourne contre eux, mais finalement n'est-elle pas une réaction par rapport à notre vie de con, nous d'adultes? Moi je me pose la question, tu vois. Les délinquants, c'est autre chose. Cette marginalité, c'est parce qu'ils ont été profondément écrasés et piétinés. Ils ne peuvent pas analyser même leur vie, tu vois. Mais ils vivent en marge, et ils vivront toujours en marge. Alors moi je dis, mon but, le but de mon travail, tu vois, parfois les mecs eux-mêmes me le demandent. Qu'est-ce que tu veux pour nous? Je dis rien d'autre que tu sois aussi heureux que moi. Alors ils disent, mais on ne veut pas être curé et éducateur. Je dis pas question d'être curé et éducateur. Il est question que tu es fait pour quelque chose, comme chacun d'entre nous. Il faut que je t'aide à être ce pour quoi tu es fait. C'est la plus grande chose, Marcel, qu'on peut réaliser sur Terre, au point de vue humain.
Et vous-même, Guy Gilbert, vous êtes marginalisé d'une certaine façon. Enfin, comment êtes-vous vu par les gens, disons, normaux de ce quartier?
Tu vois, lorsque je suis arrêté par les flics le soir, vous appelez les bœufs, vous les flics, je crois.
Oui, c'est
pas tellement gentil. Hein.
Vous êtes bien au courant, quand même. Hein?
Oui, j'avais appris ça à Québec. Alors, j'ai vu quand même pas mal de jeunes. Et bon. Mais donc, un flic m'arrête le soir. Ils me prennent pour de la merde quand ils me voient, tu sais. Parce qu'en blouson noir avec des cheveux longs, etc., c'est pas évident que je sois curé, bien entendu. Parfois, ils m'arrachent presque les boutonnières ici. Ils n'ont pas le droit. C'est ma propriété privée. Je leur dis, bah, les packs, mon vieux. On n'a pas gardé les cochons ensemble. S'il te plaît, respecte-moi. Ils sont pas contents. Parfois, ils m'insultent. Bon. Ensuite, quand ils savent que je suis prêtre, 45 degrés d'inclinaison, monsieur l'abbé, veillez passer. Je leur dis tout à l'heure, tu m'as pris pour une merde parce que je faisais pas de mal. Mais j'ai un blouson noir, tu comprends, tu m'as pas respecté. Maintenant, tu sais que je suis prêtre, tu me respectes. Bien. Ben, tu sais, le flic, il dit pas grand-chose. Je dis, mon vieux, c'est pas le procès des bœufs ou des flics que je veux faire là-dedans. C'est d'abord notre propre procès. Est-ce que chacun et chacune d'entre nous ne regardons pas d'abord l'autre en fonction de l'étiquette sociale qu'il porte avant de le regarder comme une personne humaine? Ça, c'est une dimension très importante. Voilà. Si je suis marginal, parce que si tu veux, je veux regarder chaque personne comme une personne humaine, un frère, une sœur bien-aimée, eh bien, vive la marginalité alors. Mais effectivement, la carapace extérieure est importante, Marcel. Elle est importante. Parce que, à partir du moment où tu te rends compte que ce type de société dans laquelle nous sommes regarde l'autre en fonction de sa bagnole, de son fric, de sa maison, à partir de ce moment-là, moi, je crois que je me dois en tant que prêtre de présenter justement ce visage différent. En disant, je ne suis pas du côté de l'agression et du vol, mais je suis du côté des humiliés et des agressés. Et chez nous, les humiliés et les agressés ont souvent cette apparence extérieure. Jésus-Christ est né comme un paumé. Il ne faut pas s'oublier ça. Hein? Je dis souvent, une bohémienne se baladait dans les rues de Bethléem. Elle avait l'apparence d'une bohémienne. C'était la Sainte Vierge. Elle avait un ventre comme ça, elle voulait accoucher. Tout le monde disait, allez, fous le camp, on va accoucher ailleurs. C'est comme ça que Jésus-Christ est né. On ne l'a pas reconnu, il ne faut pas oublier. C'est vachement important. Jésus-Christ est un marginal à sa façon, un très grand marginal. Tu ne crois pas?
Mais parlons donc justement de les flics et de tout l'appareil de la justice. Justement, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce que vous attendez de l'appareil de la justice à l'égard de ceux qu'on appelle chez nous les voyous, disons, les délinquants?
Qu'ils soient d'abord des hommes et des femmes face aux jeunes qu'ils ont devant eux. Il y a un an, j'ai fait une conférence devant 300 magistrats, jeunes magistrats. Et j'ai vu une chose stupéfiante, c'est qu'ils notaient tout de suite quelque chose sur leur carnet quand j'ai dit ça. J'ai dit, messieurs et mesdames, qu'ils allez juger des jeunes enfants, adolescents bientôt. Sachez que vous aurez 20 000 mots de vocabulaire. Les jeunes que vous aurez devant vous n'auront que 400 mots de vocabulaire. Sachez-le bien. Ça veut dire, sachez qu'il y aura une disproportion fantastique entre votre culture, leur manque de culture, entre votre humanité riche, leur manque affectif très grave. Hein. Et que voilà ce que j'allais leur dire, sois d'abord un homme. Tu vois, souvent des flics me demandent dans ce bouquin, parfois je suis arrêté par un flic, il me dit est-ce que vous pouvez dédicacer? Je dédicace et je mets simplement ceci. J'espère que derrière l'uniforme du bœuf ou du flic, tu restes un homme fraternel. Voilà ce que je leur dis. Voilà ma réponse.
Oui, mais je voulais vous demander, à quel prix peut-on demeurer un homme fraternel? Qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer un homme fraternel, quel prix faut-il payer?
Demeurer un homme fraternel dans ce type de société, c'est avoir 1000 emmerdements. Parce que c'est s'occuper des autres. C'est se bouger le cul pour les autres. C'est regarder l'autre. Et regarder l'autre, tu sais, ça attire beaucoup d'ennuis. Si on reste chez soi, on n'a pas d'ennui. Si tu veux t'ouvrir aux autres, tu en as beaucoup. Et je passerai sur un plan chrétien très important en disant, Jésus-Christ a eu 1000 ennuis. La preuve, c'est que finalement, on l'a tué. Parce que précisément, il s'est occupé des autres. Il annonçait son père, mais il annonçait toujours qu'il fallait regarder les plus pauvres, qu'il fallait vivre avec eux, qu'il fallait être solidaire de leurs souffrances et de leurs misères pour les aider à vivre dans la justice. C'est ce que Jésus-Christ a payé. Il a payé un prix très cher. Hein. Il est né comme un paumé, il est mort entre deux criminels, il ne faut pas l'oublier, je crois que c'est important. Je crois que le disciple doit vivre comme son maître, et je veux vivre comme mon patron Jésus-Christ.
Est-ce que vous avez jamais connu le, disons, le désespoir en faisant ce travail?
Je crois que non. Pour la raison suivante, c'est que je sais que la Providence me devance d'un quart d'heure dans la rue, que Jésus-Christ est au cœur de mon action, au cœur de moi-même et au cœur de l'autre. Et que dans ce sens-là, c'est fantastique. Même si l'autre ne le connaît pas. Tu vois, on me demande parfois si je veux les convertir. Je dis à les convertir pourquoi et à quoi. Un soir, dans un bar de Pigalle, je consommais. Et un jeune me dit, t'es curé? Je dis oui. Il me dit, parle-moi de ton bon Dieu. Alors, je parlais de Dieu Père, etc. Il m'a dit, laisse tomber ton bon Dieu de Père, parce que moi, mon Père m'a abandonné. Ça veut dire, t'as pas le droit de m'envoyer à ma gueule, tu n'as pas le droit de m'envoyer ton Dieu, parce que moi je ne connais pas l'amour humain d'abord. Quand on aime Marcel, humainement, Dieu pourra être connu. La preuve, c'est que Jésus a fermé sa gueule pendant 30 ans, il a vécu avec les gens pendant 30 ans, et il a parlé avec l'extraordinaire vérité de son Père et des autres pendant 3 ans. Mais il a bossé, il a vécu, il a souffert pendant 30 ans. C'est important. Nous curés, dis donc, on devrait en prendre de la graine. Souvent notre morale, etc., tout notre truc, on devrait laisser tomber tout ça et vivre beaucoup plus près des gens, et des plus pauvres notamment, parce que, et il n'y a pas que les curés et les bonnes sœurs qui doivent vivre ça, tous les chrétiens, vivre auprès des plus pauvres, par vocation, parce que Jésus-Christ, notre maître, nous l'a appris lui-même.
Vous insistez beaucoup sur votre sacerdoce. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être prêtre?
Tu vois, je suis mon père était communiste. Je suis rentré à l'âge de 13 ans au séminaire. Ça fait 30 ans que je suis dans l'église, Marcel, c'est un bail. Quand mon père a su que je voulais être prêtre, il m'a dit « ça te prend comme une envie de pisser », c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Et j'ai trompé, parce que ça fait 30 ans que je suis dans l'église. J'ai fait tout mon séminaire. Ça fait 30 ans que je suis dans l'église. J'ai des tas de choses à dire sur l'église. L'apparence de richesse qu'elle donne. Sa façon d'aller toujours vers les plus riches. Dénoncer ça. Dénoncer des tas d'autres choses dans l'église. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Parce que je crois que le combat est ailleurs. Le combat est au niveau de la justice et de l'amour. Annoncer à un Dieu Père qui est d'abord du côté des petits, combattre pour la justice, pour révéler l'amour de Dieu. Ça, c'est ça mon sacerdoce. Et des pieds à la tête, puisque j'ai renoncé à une femme et des enfants pour être le vagabond de l'amour et de l'espérance. J'ai renoncé à tout.
Est-ce que ce ne serait pas plus facile justement de faire le travail que vous faites si vous aviez une vie familiale normale?
Non Marcel, impossible. Mais je connais des éducateurs qui font ça, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui sont merveilleux, qui font une tâche admirable. Mais je sais que j'étais fait moi pour un amour universel. Un jour un mec m'a dit, tu vois, toi tu fais l'amour avec le monde entier. J'ai trouvé ça merveilleux. C'était très très beau. Tu as donné toute ta vie, tout ton être et pour les autres. Tu fais l'amour avec le monde entier. C'est très beau. Un autre m'a dit, croyant pas en Dieu, hein, un soir, je rentrais tard et il m'a dit, tu as de la chance d'avoir pu balancer ta vie au service de quelqu'un. Ce quelqu'un qui pouvait même pas nommer. C'est important, tu sais, d'entendre. Le gars qui arrive pour la première fois me dit toujours, est-ce que tu fais l'amour? Je dis non. C'est pas possible, t'as bien une femme? Je dis non. Je dis, toi, le saut de lapin, la voltige russe, tout ce que tu voudras, tu connais, c'est ton affaire. Moi, tu permets que je puisse vivre ma vie de célibataire comme je l'entends. Il se tait. 6 mois plus tard, lorsque ce même gars est là, il m'a vu vivre. Et qu'un autre rentre, me redemande est-ce que tu fais l'amour, etc. Je réponds non. C'est le gars qui connaît depuis 6 mois qui répond, qui défend mon célibat en disant écoute, tu racontes tous tes emmerdements, il est 3h du matin, tu racontes ça à Guy, il est 3h du matin. Il est là, il a renoncé à tout le monde pour toi. Alors respecte ça. Toi. C'est vachement important, c'est pas moi qui défendrai mon célibat. Ce sont les mecs eux-mêmes qui me défendent. C'est beaucoup, je crois que c'est beaucoup plus important.
Vous êtes prêtre, vous avez donc des confrères prêtres, vous avez un évêque. Et comment se comporte-t-il vis-à-vis de vous? Comment vous accepte-t-il?
L'Église m'accepte bien, je crois. Je crois dans ce sens. Elle respecte mon côté marginal, si tu veux. Je suis un peu comme un canard dans une couvée de poussins dans l'Église, si tu veux. L'autre jour, j'allais dans une réunion de curés, j'étais pas encore très connu, et le prêtre me voit rentrer, il me dit, écoutez, s'il vous plaît, c'est pour des prêtres, écoute, mon pote, dégage, parce que je suis curé comme toi. Bon, c'est une façon, si tu veux, assez plaisante de... Bon, évidemment, extérieurement, c'est pas évident. Enfin, maintenant, par la télévision, je crois, malheureusement, heureusement, ça l'est. Mais simplement, je respecte profondément l'Église avec les dons différents dans l'Église. Les dons sont différents dans l'Église, je crois qu'on doit accepter ça. Un prêtre de paroisse fait du bon boulot dans la mesure où il est près des pauvres de sa paroisse. Un prêtre dans la rue fait du bon boulot dans la mesure où il est doué pour ça et qu'il se lance à fond, comme un kamikaze à fond dans la bagarre. C'est important. Et puis, tu vois, je crois profondément à la prière.
Qu'est-ce que ça veut dire, prier pour vous?
Pour moi, prier, c'est à 180 à l'heure sur ma moto. Pouvoir prier sans cesse, dans ma voiture, partout, dans le camion. Mais prier surtout pour moi, c'est fermer ma gueule pendant 48 heures, aller chez les moines, et j'y vais tous les 15 jours dès que je le peux, pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ que je cherche tous les jours, à tout moment, et que je rencontre dans une prière contemplative. C'est vachement important pour moi. Toi. Et le jour où je perdrai ça, je crois que je perdrai tout. Si je suis resté intact jusqu'à maintenant, c'est parce que justement, j'ai découvert que la prière était très importante dans ma vie. Essentielle.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez l'amour avec le monde entier. Mais très bien.
Un gars qui a dit ça.
Oui, très bien, vous l'avez traduit. Mais est-ce que vous vous sentez aimé?
Je me sens profondément aimé, oui, par ce peuple des petits, si tu veux, très profondément aimé. C'est une grande joie pour moi, tu sais, c'est l'amour qu'ils me portent. Ils ne le disent pas, mais ils ont une façon extraordinaire de le traduire, parce que ce ne sont pas des jeunes qui parlent beaucoup. Si tu veux, ce que je veux, c'est être aimé pour moi-même. Je ne cherche pas, en aimant, d'être aimé pour moi-même, si tu veux. J'aime, mais je sais que c'est ça, le feu de l'amour, c'est ça. L'amour, c'est comme un torrent. Plus tu aimes, plus tu transformes les autres en aimant, plus les autres aiment. Je pense que c'est ça la force de l'amour. L'amour humain est magnifié formidablement par l'amour de Dieu. Je suis profondément aimé par ce peuple. C'est d'abord, je crois, la plus grande chose qui peut m'être donnée.
Oui. Vous êtes un torrent, c'est bien évident, Guy Gilbert, mais...
Non, l'amour est un torrent, Marcel,
oui,
pas
mais,
moi.
Mais vous l'êtes aussi, il passe à travers vous, n'est-ce pas? Vous... On va vous quitter dans quelques minutes.
Oui.
Et nous ne sommes peut-être pas des torrents. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Marcel, une des plus belles choses qui m'est arrivée, c'est dans une conférence que je donnais. J'avais parlé à 300 bourgeois. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai bien pu leur dire? Ils m'ont pris pour un zoo permanent. Ils ont vu ce curé avec des cheveux longs, tout ça. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Je me disais, qu'est-ce que j'ai bien pu leur apporter en leur parlant des délinquants, alors qu'eux sont bien dans leurs souliers, tout ça, etc. Eh bien, tu vois, la réponse m'a été donnée de façon merveilleuse. Un gars est arrivé vers moi, 45 ans aux environs, un bourgeois apparemment, et il m'a dit, merci de ce que vous avez dit de vos loubards et de vos voyous. Moi, je vais voir mon fils. Ça fait 5 ans que je ne le regarde plus. Eh bien, tu vois, Marcel, j'ai compris ce jour-là que c'est ma réponse vis-à-vis des Canadiens. Je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous êtes un grand peuple et vous faites des choses merveilleuses. Mais je pense qu'à partir du moment où on sait regarder son enfant, si cette émission permet à certaines d'entre vous qui ne regardez plus vos gosses parce que vous courez d'abord après le fric, la bagnole, je ne sais pas quoi encore, des tas de gadgets ridicules, si d'abord... Vous savez, le soir et à tout moment, regardez vos enfants. Les aimer vraiment, parce que les faire, c'est bien. Mais les construire après, c'est un travail long et difficile. Mais si vous savez merveilleusement les aimer, donner priorité à l'amour, je crois que je ne vais pas perdre mon temps avec toi, Marcel. Mmh.
Mais je sais aussi que vous êtes aidé par des familles, par des foyers qui accueillent ces jeunes.
Nous sommes aidés de plusieurs moyens. D'abord des gens qui ouvrent leur cœur et leur regard à ces jeunes. 25 familles que nous avons, des familles d'accueil, des jeunes foyers qui accueillent ces jeunes et qui les prennent chez eux. Nous refusons pratiquement tous les centres. C'est très dangereux de mettre des délinquants avec des délinquants, moi l'ai dit, parce que finalement, c'est une pourriture pratiquement généralisée. Nous préférons remettre le gars au milieu de gens tout à fait normaux, si tu veux, et qui les aiment profondément. Donc 25 familles qui les accueillent, et n'importe quand, avec la clé, qui leur donne la clé tout de suite, c'est très important. Bon, nous avons ça. Nous avons une aide financière aussi qui nous est donnée. Je refuse tout chèque lié à toute conférence et toute parole de Dieu. La parole de Dieu est gratuite. Lorsque je m'en vais dans une église, je refuse toute quête. Je veux parler librement aux gens, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit à ses apôtres, vous allez prêcher la bonne parole et vous ramassez le fric. Non, il a dit justement, vous partez avec votre bâton et votre besace. Hein. Mais si tu veux, des gens après, longtemps après, veulent nous aider, etc. Au nom de la Providence, j'accepte ce que les gens veulent offrir. Mais d'abord, je leur dis, s'ils veulent offrir de l'argent, etc., ils offrent ce qu'ils veulent, mais bien après, après réflexion. Ce qui est important d'abord, c'est qu'ils puissent, dans leur propre milieu, changer leur regard vis-à-vis de ceux qui les entourent, notamment ceux qui sont écrasés et piétinés. C'est fondamental.
Si je comprends bien, donc c'est pas... vous ne pouvez pas demander à toutes les familles d'être des familles d'accueil, n'est-ce pas?
Voilà.
Mais vous pouvez demander à n'importe qui d'avoir un autre regard.
C'est exact. Changer de regard, changer son cœur, ouvrir sa porte à l'étranger, ouvrir sa porte à celui qui est délaissé, et parfois dans sa propre famille. C'est pas besoin d'aller loin, tu sais. Il n'est pas question de courir après tous les voyous, tous les loupards de Montréal et de Québec et d'ailleurs. Il y en a, j'en ai vu beaucoup. Hein. Et je crois qu'il y a des éducateurs qui font un travail très beau là-bas chez vous. Ils ne sont peut-être pas assez nombreux comme chez nous. Mais il n'est pas question d'aller vers les plus lointains, parce que ça demande quand même des compétences. Hein. Ça demande aussi parfois de se bagarrer. Mais d'arriver de me bagarrer, de me battre avec eux, obligé que j'étais.
Au point.
Obligé que j'étais. Parce que si je n'avais pas fait ça, ils m'auraient pris pour un pauvre con et je n'aurais jamais pu travailler avec eux. Première bataille, je suis revenu la tête en sang. C'est rare de se battre. J'étais obligé de prendre leur propre loi par moment. Parce que sinon, ils ne m'auraient jamais admis à l'intérieur même de leur membre. Bon, ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est exact. Ce qui est donné à tout le monde, c'est d'ouvrir son cœur et son regard, de changer sa mentalité, de ne pas juger. Je crois que c'est important.
Guy Gilbert, je vous remercie.